Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, bonjour. Une nouvelle chronique du Pays Toulousain en compagnie d'Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Et en compagnie de Michel Derivoire, toujours administrateur au Toulousain de Toulouse.
J'espère pour quelque temps encore.
On espère aussi. Mais
Sébastien, vous aussi.
Voilà.
Et je vous le rappelle.
Moi depuis peu et j'en suis ravi.
Bonjour Aline, bonjour Sébastien.
Et donc nous continuons cette série Demeures et familles qui nous amène aujourd'hui rue Mage à l'hôtel d'Orbessan.
L'hôtel d'Orbessan, qui est un hôtel de la rue Mage, comme tu viens de le dire Sébastien, qui est localisé au numéro 11, dans une rue qui est tellement intéressante du point de vue qui nous occupe, c'est-à-dire des demeures patrimoniales et des familles patriciennes, que l'on va certainement prévoir une deuxième émission, si vous le voulez bien, pour parler des autres hôtels de la rue Mage. Celui de, qui nous
dans
occupe...
dans un quartier qui est un quartier dédié.
Ah oui,
si je puis dire.
Mais vous allez voir tout de suite, on va l'aborder tout de suite, que ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, ça a été dédié, mais pas aux mêmes personnes.
Ah.
Autrement dit... Allons-y, c'était un quartier extrêmement commerçant, artisanal, dans les métiers de bouche.
Ah oui.
Et oui, parce que cette rue Mage, en fait, est une rue Mayor. Enfin, c'était en occitan, c'est devenu la grande rue des bouchers à l'origine.
Ah,
c'était
oui,
la
oui,
corporation des bouchers qui trouvait là.
C'est ce qu'on appelle la rue des affachadors, c'est ça?
Oui.
Ah.
Mais ça, c'est pour l'émission prochaine. On va se focaliser sur ce bel hôtel, construit vers 1652, en plusieurs fois par un maître maçon bien connu des spécialistes du patrimoine à Toulouse, de la brique, qui s'appelle Cormartin. Et il est construit donc sur la commande du baron d'Orbessan, qui est en fait daignant d'Orbessan, on va y revenir, et qui va garder cette propriété, cet immeuble, pendant près de deux siècles. C'est assez rare, hein. On
ah
le
oui.
dit à chaque fois. Normalement, ah oui, la oui, moyenne, oui, c'est deux, trois générations. Voilà. Donc,
oui,
ils ont
assez
été assez sages, disons.
Oui.
Voilà. Cet hôtel se caractérise par un portail d'entrée dont la présence est soulignée par une alternance de briques et de pierres. C'est-à-dire, on est vraiment dans le Louis XIII.
C'est ce qu'on voit de la rue.
C'est ce qu'on voit de la rue qui est très étroite. Par endroit, elle fait même à peu près 3 mètres de large. Donc, on a difficilement une vue globale de la façade. Mais celle-ci est très richement décorée, et notamment des balcons en fer forgé qui sont du plus bel effet, mais qui sont plus tardifs que la construction.
Qui sont une marque de fabrique, un signe distinctif des très belles demeures toulousaines.
Voilà.
Avec le fer de l'Ariège.
Avec le fer de l'Ariège, des forges.
Des mines du Rancier et des forges de l'Ariège, oui.
Que vous devez connaître certainement.
Oh, certainement.
En particulier.
Oui.
Alors, on va parler un petit peu de l'occupation et des propriétaires successifs de cet immeuble, même si il porte le même nom sur 17e et 18e siècle. Mais je voudrais avant citer rapidement une thèse qui a beaucoup marqué la faculté quand elle est sortie en 2000, qui est la thèse d'Alain de Borgard sur la commande privée, ou profane, il l'appelle, dans les édifices de parlementaires au XVIIe siècle. Et elle fourmille de sources et d'anecdotes. Et on y trouve notamment ceci, concernant l'hôtel d'Aignan d'Orbessan. Bernard Cormartin le construisit 4 ans après l'entrée en charge du conseiller au Parlement Bernard d'Aignan. Par son mariage avec Marie de Maniban, le magistrat se plaçait au sein d'un cercle familial toulousain de première importance, composé des familles Dufort de Saint-Jory et autres noms fameux. Cette famille d'Aignan comptait de très nombreux rameaux, la plupart demeurés au XVIIe siècle dans la plus joyeuse roture. Les branches d'Orbessan et de Castelvieille formaient de turbulentes tribus de parvenus, imbues à l'extravagance de leur dignité du jour. J'ai ouvert des guillemets, je serais incapable d'écrire de cette façon. Mais bon, c'est intéressant de voir qu'à travers cette dynastie, on a affaire à, au fond, ce qui se passait à Toulouse au 16e, 17e, une ascension à la base, on est artisan, on est commerçant, on est ceci, cela. Et par le capitulat, on le dit assez souvent.
Et une accession par la fonction, finalement.
Oui, politique. c'est-à-dire des responsabilités dans la gestion collective de la ville et des
achats de charges judiciaires. Hein.
Voilà, alors ça c'est l'étape d'après, quand on a suffisamment d'argent, parce que les charges coûtent assez cher, elles sont vénales. Quelquefois elles viennent justement en remboursement de créances, on aborde souvent cet aspect des choses. Et les déniants d'Orbessan ont acheté, je crois, 1615, une très jolie seigneurie, qui est donc le nom qu'ils vont porter, en fait, qui est la seigneurie d'Orbessan, et qui se trouve dans le Gers.
On n'est plus à Toulouse, là.
Alors, on est en Gascogne.
En Gascogne, voilà, très loin, quand même.
Par le Pont-Neuf, on file, n'est-ce pas, dans une de ces allées de la Patte-d'Oie vers la Gascogne.
Et alors, d'où l'explication du nom, parce que très souvent, on prend le nom du site ou du acheté, enfin, de l'emplacement du site que l'on achète.
Alors ça, c'est une formulation très contemporaine, mais vous êtes tout à fait dans l'exactitude, sauf qu'on prend le plus joli nom, celui qui sonne le mieux, voilà. Ça, c'est pas moi qui l'invente, mais c'est le plus fréquent, et on prend le nom de la jolie propriété, celle où il se passe des choses, c'est-à-dire on réunit la bonne société, voilà. Donc, on a 4 ou 5...
Très bel hôtel particulier,
c'est Alors, tellement. On va peut-être un peu parler de l'hôtel lui-même, des occupants, mais on va s'attarder sur cadet, j'allais dire, qui se fait appeler marquis d'Orbessan en plein 18e. Et c'est lui qui va donner, si vous voulez, tout le rayonnement de la propriété du Gers. Donc, celui qui fait construire épouse la fille du marquis de Maniban et qui est un des top 10, on pourrait dire, des personnalités du Parlement. Donc, ça doit aider certainement financièrement. Ça oblige aussi.
Belle dot.
Je ne connais pas le montant, mais on peut le supposer. Mais ils occupent plusieurs seigneuries, plusieurs propriétés, on dirait, et notamment la seigneurie de Blagnac. Blagnac, on aura certainement l'occasion de faire une émission, si vous le voulez bien, qui est une des plus anciennes. On est baron de Blagnac, on fait partie de la noblesse d'État de Languedoc. Je dirais presque qu'on a le droit d'entrer à cheval dans la cathédrale. Bon. C'est une image. Mais cette seigneurie est tellement disputée qu'on n'y reste pas plus de 20-30 ans. Enfin, on aura l'occasion de le voir une autre fois. Mais enfin, un temps, ces déniants d'Orbessan, ils sont dans leur ascension, hein, qu'on vient d'évoquer, sont présents par les Maniban, en fait. Ça, c'est certes qui se rattache à la présence du marquis de Maniban, par mariage. Et ensuite, ils font un autre très joli mariage au début du XVIIIe siècle avec une mademoiselle de Collet. Et les Collets, on l'a évoqué dans une émission...
Parlementaire aussi.
On ne sort pas du milieu parlementaire. Je vous le signalerai quand on sera vraiment dehors. Et comme on est loin du pastel, au début du XVIIIe siècle, on reste dans ces quelques centaines de familles, oui, de parlementaires et de magistrats, et aussi de financiers, il ne faut pas les oublier, qui ont des postes, des charges. À la cour souvent. Et donc cette mademoiselle de Collet apporte par héritage une partie de la seigneurie de Gragnac, on l'avait évoqué avec Sébastien, et surtout dans la commune de Toulouse, le petit Gragnac, vous savez, cette propriété dont les descriptions nous évoquent un jardin extraordinaire qui se situe au niveau de l'embouchure du canal sur la Garonne, et aujourd'hui, approximativement, qui est morcelé entre le stade Ernest Vallon et la rocade, enfin le périphérique exactement. Il ne reste plus qu'un bâtiment qui abrite une école maternelle. Bon, mais enfin, c'est pour le souvenir que je l'évoque. Enfin, le marquis d'Orbessan, le personnage plus célèbre et qui a fait parler de lui, s'appelle Anne-Marie Daignan d'Orbessan, donc en deux morceaux de nom, et il est conseiller en 1727, président en 1738, il est tout jeune, il n'a pas 30 ans, membre de l'Académie de peinture et de sculpture et de l'Académie des Jeux floraux. Bref, il fait partie de cette élite qui s'intéresse vraiment aux beaux-arts et par sa fortune, permet d'enrichir les collections.
Alors, est-ce que c'est lui, pardonnez-moi de faire peut-être un petit peu raccourci, est-ce que c'est lui qui fait construire le château d'Orbessan?
Alors, il était déjà construit, c'est un château 17e, et c'est lui qui le décore, qui va apporter une décoration intérieure-extérieure. C'est un château très simple, hein, corps de logis, entouré de deux tours d'angle, mais c'est un homme éclairé, on l'a dit, hein, pour ses multiples raisons, et il est proche de ses villageois, on va dire comme ça, Et il construit une fontaine qu'on peut toujours voir, alors que le château, lui, est malheureusement dans un état, on peut lire par la presse, hein, dans un état de dégradation avancée, alors qu'il a de très très jolis décors. Et on sait qu'il y avait un beau jardin. Voilà, avec des fontaines,
et on sait, voilà. J'ai lu ça à l'occasion, on sait qu'il y avait une vie culturelle assez importante.
Mais oui.
Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait un petit théâtre.
Alors, il avait surtout... Oui, je vous en prie.
Oui,
il avait surtout beaucoup de livres.
Ah oui, oui, oui.
Beaucoup de livres, une bibliothèque incroyable. Et surtout, il faisait salon, il tenait salon, j'imagine, Madame d'Orbessan. Il meurt en 1796 et juste avant, l'hôtel passe par alliance au marquis de Portes, P-O-R-T-E-S, qui est le dernier sénéchal de Toulouse. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans une autre émission. Et avec lui s'arrête donc cette dynastie d'Ornien d'Ormesson. On retrouve après la Révolution en 1839 la famille Pallarin. Et par la suite, c'est un hôtel qui va être divisé en appartements et loué. Voilà. Mais...
Donc on retiendra qu'existe toujours à la fois aujourd'hui l'hôtel, même s'il a été un petit peu... rénové, réutilisé, etc. Et le château, pour lequel on souhaite un très bel avenir. Parce
surtout
que c'est un très joli château.
À la mairie, je crois, et aux associations, aux habitants qui s'essayent de donnent du mal, en tout cas, pour essayer de le restaurer, de se tirer de l'oubli. On termine avec le blason, si vous voulez bien, de la famille d'Aignan d'Orbessan, parce qu'il est à l'image de ce que nous avons dit, de leur ascension sociale.
Oui,
et donc, quand on montre son ascension, on montre un lion d'azur au lion d'argent, au chef cousu de gueule, chargé de 3 croissants d'argent.
Eh bien, voilà, une image magnifique pour qualifier la famille d'Orbessan. Merci beaucoup, Michel.
Bonne semaine.